frères et sœurs, dimanche dernier, les pharisiens voulaient coincer Jésus sur l'impôt payé à César. Aujourd'hui, ils veulent le coincer sur le grand commandement de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. On pourrait être tenté de dire « encore ». Car cet évangile revient souvent. Aimer Dieu, aimer son prochain. Sûrement parce que ce commandement revient souvent dans la bouche de Jésus. Pour lui, rien n'est plus important que d'aimer Dieu notre Père, qui nous aime tant et qui fait de nous des frères et des sœurs. Les pharisiens cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Ils savent pourtant parfaitement qu'aimer Dieu est le commandement suprême. Tous les juifs pieux ont l'habitude de prier 5 fois par jour avec ce passage de l'Écriture. « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de toute ta force. » Le piège tendu à Jésus visait son enseignement et ses actes dans la vie quotidienne. Ses adversaires le voyaient vivre la proximité avec les gens, avec les blessés de la vie, guérir les malades et même le jour du sabbat. Et voilà, c'en est trop. Il ne reste pas scrupuleusement lié à la loi, à la lettre. Selon la tradition des rabbins, la loi comprenait 613 commandements positifs, 365 interdictions et 248 autres prescriptions. Et les docteurs de la loi avaient parfois tendance à situer tous ces préceptes sur le même plan. Que le commandement léger soit aussi cher que le commandement grave. Cela pouvait être l'expression d'un amour de Dieu très attentif, mais cela pouvait tout aussi bien virer au légalisme pointilleux. Et Jésus va prouver en quelques mots que la loi elle-même met l'amour de Dieu et l'amour fraternel au-dessus de tout. Au début du texte de notre évangile de ce jour, nous voyons justement que nous sommes dans le cadre des conflits de Jésus avec ses adversaires, et c'est un spécialiste de la loi qui interroge Jésus. Oui, en appartenant probablement au parti des pharisiens, la question qui est portée est celle-ci. Elle n'est pas sur un détail comme celui de l'impôt, mais sur le fond même de la volonté de Dieu. À la suite de quoi Jésus intervient en citant le livre du Deutéronome, un texte que tous ont en mémoire. Il ne faut pas forcer la distinction entre cœur, âme, pensée. Car en effet, pour nous occidentaux, le cœur sert surtout à aimer. Pour un hébreu, pour un oriental, il a sa part aussi dans l'activité intellectuelle. Dieu donne un cœur pour comprendre, nous dit le livre du Deutéronome. Le cœur est à la fois conscience et mémoire, intuition, énergie. Dans le cœur résonnent toutes les affections. C'est dans le cœur que les impressions et les idées se muent en décisions et en projets. Oui, pour un oriental, c'est dans le cœur aussi que s'enracine l'attitude religieuse et la fidélité à Dieu. Le cœur, au sens biblique, est le tout de l'homme intérieur. est le lieu privilégié du risque de la foi. C'est donc toute la personne qui est mobilisée dans l'amour et pour l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu est le premier des commandements et le plus grand parce qu'il englobe tous les autres et leur donne leur pleine signification. Le premier, comme le Second Testament, puis l'histoire de l'Église, montre bien que la permanence de cette tentation de vouloir réduire la foi au culte ou à d'autres exigences rituelles, d'où le refus pratique d'accepter les implications de la foi dans les réalités de notre vie quotidienne, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, culturelles, familiales. Quand j'ai payé fidèlement mes contributions aux pratiques religieuses, faudrait-il encore mêler Dieu à mes spéculations familiales, économiques, mes options politiques, mes options de profit, tout comme mes relations avec des clients, avec mes voisins, avec ma famille, mes employés, les locataires, qui sais-je, avec les pauvres, les marginaux, les étrangers, les immigrés. Or, le fait de Dieu qui s'est incarné nous révèle que Dieu n'est pas en haut. Il est au milieu de nous. Il est en notre monde. Et c'est cela le mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Le Dieu d'amour a une telle tendresse, un tel respect pour nous les hommes, qu'il s'est fait humblement l'un d'entre nous. Plus étonnant encore, il s'est manifesté comme le défenseur des plus faibles, jusqu'à s'en déclarer totalement solidaire. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ainsi, déjà, le livre de l'Exode nous montre que par ses commandements, Dieu veut garantir directement et personnellement la protection de ses victimes sans défense, que sont totalement la veuve, l'orphelin, l'étranger. Très concrètement, le Code de l'Alliance vise le cœur de l'homme, où naissent et s'enracinent bien des causes de la violence, de l'oppression, de la misère, tels les abus de pouvoir, l'exploitation des faibles, tant d'abus, tant de chantage, tant de violence à tous les niveaux. Et nous le voyons tant dans notre vie qu'au milieu international, tant de guerres dans le monde. Tu n'exploiteras ni opprimeras l'immigré. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni orphelin. Si tu prêtes de l'argent au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras pas avec lui comme un usurier. Le tout assorti d'une véritable mise en demeure, doublée d'une terrible menace. Si tu les accables, qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, je vous ferai périr par l'épée, dit le Seigneur. Il y a certes le premier commandement qui n'étonne personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta personne, de toute ta force. Voilà bien l'essentiel, dirons-nous. Il y a cependant une seconde parole de vie, qui est du livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hélas, de cette seconde donnée, souvent nous en faisons une seconde parole de vie. Nous ne la prenons pas au premier niveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, n'ira-t-on pas jusqu'à dire et à croire que le temps consacré aux créatures, consacré à nos choses matérielles, serait comme un voile qui nous empêcherait d'abord de voir l'amour de Dieu. Mais voilà, Jésus vient et répond Il fait de ces deux commandements des jumeaux radicalement dépendants l'un de l'autre. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, nous révèle en parole et en témoignage de vie l'exacte interprétation de la loi et son parfait accomplissement. Très mystique, donc très concret, Jean traduira « Comment dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que je n'aime pas mon frère que je vois ?» Mais en sommes-nous pratiquement convaincus ? Depuis Jésus, notre comportement envers les autres, frères et sœurs humains, est le test incontournable de nos relations avec Dieu, exactement comme notre attitude envers le tout autre, Dieu lui-même, est la parfaite garantie de la vérité, de la qualité de notre amour envers nos semblables. C'est Dieu, en effet, qui inspire cet amour en nous, au plus profond de nous-mêmes, et qui stimule notre activité, ne l'oublions pas. Et saint Paul nous en donne aujourd'hui, c'est ce que nous avons entendu dans la lettre aux Thessaloniciens, il nous le donne par l'exemple de l'accueil qu'avaient ces chrétiens. En effet, ils étaient un exemple dans leur ville, ils ont été un exemple même dans leur région, parce qu'ils ont accueilli la parole de Dieu, ils ont accueilli l'amour de Dieu et ils l'ont mis en pratique avec le prochain. Voilà ce qui lie à la fois ce qui est du domaine de l'amour et de notre foi en Dieu. Alors, frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous invitent à nous tourner vers Dieu lui-même. Ce qu'il nous demande, il a lui-même vécu jusqu'au bout. En effet, au soir du Jeudi Saint, il nous dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Il ne s'agit pas d'une simple loi écrite, il s'agit de sa simple personne, de sa propre vie qu'il donne jusqu'au bout pour nous. Et c'est le Christ qui continue à insuffler sur nous son Esprit Saint, son esprit d'amour, pour animer de son amour nos pensées, nos actes, nos actions. Amen.